Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 16e de la saison, mais également première de l'année 2016. Voilà pour les chiffres. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Hélène Sandranier.
Bonjour messieurs.
Vous êtes notre invitée aujourd'hui et comme c'est la tradition maintenant dans cette émission, parce qu'elle est assez ancienne pour avoir établi des traditions, cette émission Radio Barque, la troisième partie vous sera exclusivement consacrée. Mais bien entendu, si à un moment vous souhaitez donner un point de vue dans les deux premières parties au cours des sujets que nous évoquons avec Michel, vous êtes la bienvenue.
Je vous en remercie.
Vous êtes vous avez été pendant longtemps adjointe au maire de Narbonne et vous êtes aujourd'hui vice-présidente du conseil départemental. Et c'est à ce sujet essentiellement que vous êtes là, que vous êtes notre invité aujourd'hui. Le sommaire, parce que là aussi, il faut garder les bonnes habitudes avec le sommaire que nous annonçons dès le début. Alors nous rappellerons quand même très succinctement que notre dernier invité 2015, c'était Claude Guillot de l'Arche.
Oui.
Une association qui a été soumise à un audit qui s'est fort bien terminé, on vient de l'apprendre il y a quelques jours. Deux mots, tu souhaites parler du compte oriental du Racing,
oui.
Narbonne, c'est comme ça que tu l'intitules, Michel. Après quoi, tu nous parleras des rapports, de l'information, des journalistes et des réseaux sociaux. Voilà,
Oui, je vais faire le pédant, là, oui.
Trois parties dans une fable, genre, non pas de La Fontaine, mais de Michel Santou, excusez de la comparaison. Dans une deuxième partie de ce Radio Barque, nous parlerons de l'élection de Mme Delga à la présidence de la nouvelle grande région. Et tu as déjà sur ton blog, par deux fois, évoqué le sujet. Et nous terminons par l'interview qui a été donnée par le maire de Narbonne, Didier Mouly, à l'Indépendant, il y a quelques jours à peine, qui t'a permis également sur ton blog de donner ton point de vue pour dire les choses avec diplomatie. Alors nous attaquons le sujet avec l'Arche. Souviens-toi, Michel, l'an dernier, nous invitâmes Claude Guillot.
Oui, j'avais beaucoup tenu, et je t'en remercie d'ailleurs, à ce que cette association, l'Arche, peu importe par qui d'ailleurs, soit invitée ici pour exposer ce qu'elle faisait,
reconnaître ses mérites.
Et reconnaître ses mérites qui sont bien grands et souvent, pour ne pas dire presque toujours, sous-estimés, en tout cas qui ne sont pas suffisamment mis en valeur par les médias locaux. Et pendant cette période de Noël, de premier de l'an, donc nous n'étions pas à l'antenne pour en parler évidemment, la presse a rendu compte d'un audit qui a été réalisé par et pour le compte de l'État, et non pas d'une collectivité financière en espèce, de cette association qui s'avère particulièrement bon pour l'image de cette association, puisque sur tous les registres listés par les auditeurs financiers, compte tenu des actions réalisées, public participant aux actions, les audits sont particulièrement élogieux.
Voilà,
élogieux. Donc tout cela finit bien. Et quand même, il faut le dire, il faut le préciser quand même, d'où vient cet audit Il vient de la sous-préfecture qui, disons-le aussi tout aussi franchement, on n'a pas l'habitude de langue de bois ici, Jean-Claude.
Ah non, pas dans cette émission, on va pas commencer en 2016,
non,
Michel.
Et probablement la conséquence, disons, de comportement un peu impulsif d'un certain nombre de jeunes du quartier, après qu'il y ait eu un certain type de comportement des pouvoirs publics locaux envers cette association. Et la conséquence a été immédiate, à savoir que l'État, peut-être par l'intermédiaire de ce monsieur dont je ne connais pas le nom, c'est peu importe, a lancé toute une série d'audits. Je trouve ça particulièrement choquant. Bon, ce sont des jeunes qui ont fait ça. Ils sont entre 18 et 21 ans. Ils sont impulsifs. Je le fus quand j'avais leur âge. Et contrairement à ce que beaucoup croient, j'ai tendance à penser que c'est quelquefois une qualité. En tout cas, le résultat, c'est que l'audit a été réalisé. que l'association a été reconnue comme
ce qui devait s'avérer sur une sanction n'est pas une sanction.
Et voilà, et que paradoxalement, plutôt qu'une sanction, c'est une reconnaissance.
Tant mieux pour l'Arche. Voilà, et ça nous conforte dans l'idée que nous avons eue, justement, d'accueillir ce monsieur Guillot. Un mot là-dessus, Hélène Sandranier.
Oui, sans vouloir me substituer à ma collègue, Catherine Boussis, que vous receviez il y a pas très longtemps,
effectivement.
Et qui est en charge de ces dossiers, j'ai envie de vous dire, oui, nous le savons que l'Arche est une bonne association, puisque nous n'hésitons pas et nous nous engageons dans le soutien de ces projets.
C'est vrai. Alors ce que j'aimerais, ce que nous avons dit le jour où nous avons invité ce monsieur, c'est que plutôt que d'intervenir d'une manière ponctuelle, faite par des subventions annuelles, il serait quand même plus astucieux, en tout cas plus correct, du point de vue de l'association en tout cas, que sur un programme de 3 à 4 ans, enfin en tout cas 3 ans à minima, ben voilà, les trois partenaires se mettent autour d'une table et mettent en place un financement sur une période relativement pérenne de 3 ans, avec évidemment un contrôle à la sortie, de manière à asseoir de manière à peu près confortable, une gestion qui aujourd'hui est un peu quand même chaotique du point de vue des financements.
Et l'avenir de cette association. Et nous disons chiche.
Chiche.
Un petit mot également sur un sujet qui a été moult fois évoqué en 2015. C'est ce que tu résumes sous le titre du compte oriental du Racing Club Narbonne Méditerranée.
Ah oui, parce que on va pas quand même rappeler à nos auditeurs l'histoire.
Rapidement.
Hein, mais je trouvais quand même assez rigolo que pendant la période de Noël, en fait, en général, on raconte des histoires aux enfants. Pendant cette période, est arrivée la conclusion d'un conte oriental, comme je l'écris dans mon blog, écrit par un scénariste narbonnais parisien dont je tairai le nom, mais dont tout le monde reconnaîtra effectivement de qui il peut s'agir, ancien président du Racing, au passage. Un scénario très médiocre, hein, avec un personnage principal nommé Djihad Manaï, dont j'avais fait préciser à quel point il était peu fiable, et qui était vraiment d'une fiabilité et d'une crédibilité qui, voilà, un peu comme un chameau sur une banquise, quoi. Bon, un truc complètement fou, hein. Il fallait pas grand chose pour aller chercher la biographie sérieuse de ce monsieur.
L'image du chameau sur la banquise, c'est un fonds d'investissement Qatar qui a son siège dans l'île de Man, c'est-à-dire entre l'Irlande et la Grande-Bretagne.
Oui, mais pire que ça, en fait. Alors, je l'avais sous le clavier, mais je n'ai pas osé en rajouter dans les informations que je ne cessais de produire pour, alerter les médias locaux et puis d'autres que ce monsieur était un mystificateur. Je l'ai sorti récemment d'ailleurs cette information, à savoir que ce monsieur par contre était certes le propriétaire d'une société, basée dans la banlieue parisienne, une petite société qui a été mise en liquidation en avril 2015. Et au capital social de 10 000 euros.
Oui,
donc, c'est ce monsieur, effectivement, qu'on présentait comme un émir du Qatar, apportant des mannes, en fait, d'euros et de dollars, pour enfin donner, en fait, aux Racines les moyens d'être en top 14.
Pour terminer sur une formule, tout ça n'était qu'un mirage.
Et cela dit, quand même, notre patron actuel du Racing, là, est en train d'ouvrir une séquence qui va ressembler à un western australien. Il y en a qui vont prendre des bouffes, pour ne pas dire qu'ils vont rester au tapis.
Voilà, c'est parti pour de rudes combats, non pas seulement sur le terrain, mais sur le tapis vert,
exactement,
comme on le dit. Alors, cela t'amène aussi à parler des journalistes, des médias sociaux et de l'information.
Oui, sans sérieux. Alors, j'ai des habitudes, comme tout le monde. Le samedi matin, je suis dans ma salle de bain, j'écoute la radio, j'écoute France Culture. Je n'y peux rien. Je suis ainsi, notamment pour écouter celle de l'émission que je suis régulièrement, Réplique en fin, Fil quel croc. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je recommande quand même d'y aller, parce que c'est instructif, on apprend beaucoup de choses. Mais juste avant, il y a une émission qui s'appelle Le secret des sources. Une émission pour les journalistes, faite par les journalistes, et voilà, pour poser un petit peu cette profession comme étant une profession au cœur de la démocratie, de non-démocratie. Et la semaine dernière, le thème était rapport entre les journalistes professionnels et les médias sociaux, qui posent quand même problème du point de vue des journalistes professionnels, parce que voilà, il y a des blogs comme le mien, justement. Il y a Facebook, il y a Twitter, enfin bref, il y a toute une série de supports à travers lesquels circulent des informations qui proviennent pas forcément des journaux classiques, officiels, bien installés, et qui apportent ou qui contredisent des informations données par ces mêmes journaux.
Et à la fin
de cette émission, conclusion faite par une journaliste professionnelle, alors qui m'a fait j'ai failli d'ailleurs me couper avec le rasoir, qui dit tranquillement la chose suivante. Heureusement qu'il y a des journalistes professionnels. Alors, c'est vrai qu'il bon, en faut.
Hein, oui,
parce qu'un journaliste professionnel, son métier, c'est de trier en fait, l'information et de faire le distinguo entre rumeurs, données brutes et information, la vraie information. Pourquoi j'ai failli me couper? Parce que dans la semaine, en fait, ou dans les jours qui ont précédé cette émission, j'ai constaté au moins deux exemples flagrants où le journaliste professionnel, le journaliste professionnel, n'avait pas fait le métier dont la dame prétendait qu'il était la légitimité même, en fait,
oui,
de cette profession.
Et dont il aurait le monopole.
Ah, le monopole. Sorte. Alors, premier constat, exemple, Narbonnais. Pendant trois semaines, on nous a bassinés en fait avec dans la presse locale, hein, avec ce faux Qatarien, mais vrai français, qui détenait un pseudo faux en fait Qatarien installé dans une île en fait anglo en fait un paradis fiscal, hein, qui a un mystificateur total. Hein, alors que bon, modestement dans mon blog, j'avais signalé dès le premier billet à quel point cela était une pure mystification. Deuxième exemple. FR3 Corse, qui invite sur son plateau après les événements que tout le monde connaît, hein, après
il y a une quinzaine de jours.
Une quinzaine de jours, bon, des Corses qui se sont rassemblés au bas d'une cité pour en découdre, enfin, en tout cas verbalement, avec des habitants principalement musulmans, je mets des guillemets autour, en tout cas d'origine en fait,
mais
étrangère.
Après avoir été eux-mêmes, ou plus exactement, après que certains des pompiers corses
bien sûr,
aient été eux-mêmes rudoyés par cela. Mais,
évidemment.
Il faut quand même savoir d'où les
évidemment.
Choses,
non, mais c'est pas,
naissent.
C'était pas, oui, mais c'était pas sur les faits eux-mêmes, c'était sur la manière
oui,
dont
sur le traitement
la presse,
journalistique.
La fédération, enfin le FR3 Corse, hein, qui invite sur son plateau un monsieur qu'elle présente comme le représentant de la communauté musulmane de Corse, alors que tout simplement ce monsieur est un mystificateur notoire qui a circulé sur d'autres plateaux, d'autres FR3 régions. Donc voilà, je vais donner ces deux exemples-là pour bien montrer que, et à nos auditeurs, que certes, il n'est pas question de contester le rôle, la fonction des journalistes professionnels et l'utilité, notamment du point de vue de la formation de l'opinion, mais il arrive quelquefois quand même que la démonstration soit faite, qu'ils ne sont pas les seuls, effectivement, à exercer cette fonction-là, et qu'il faudrait peut-être qu'ils en prennent conscience aujourd'hui.
Voilà, et j'ajouterai que dans ce métier, il y a une matière qu'on devrait enseigner dans les écoles de journalisme dès le début, c'est l'humilité.
Bien entendu. Voilà. Comme toute chose, d'ailleurs.
On fait une première pause.